Au cours du procès, le procureur appela plus de 100 témoins venus de tout le pays, y compris du Transkei et du sud-ouest africain. Il y avait des policiers, des journalistes, des directeurs de townships, des imprimeurs. La plupart d'entre eux apportèrent des preuves techniques qui montraient que j'avais quitté le pays illégalement et que j'avais incité des ouvriers africains à suivre la grève de 3 jours à domicile en mai 1961. Il était indiscutable, et en réalité je ne le discutais pas, que j'étais coupable des deux chefs d'inculpation. Tout au long du procès, le procureur et le juge n'ont cessé de me demander le nombre de témoins que j'avais l'intention d'appeler. Je répondais toujours « Je prévois d'appeler autant de témoins que l'accusation, sinon plus. » Quand finalement l'accusation en eut fini, il y eut un grand silence dans le tribunal, car on attendait que je commence ma défense. Je me levai alors, et au lieu d'appeler mon premier témoin, je dis sur le ton le plus naturel que je n'en appellerai aucun. Et sur ce, je déclarai brusquement que j'avais terminé. Il y eut un murmure dans la salle, et le procureur ne put s'empêcher de s'écrier « Mon Dieu !» J'avais trompé la cour depuis le début, parce que je savais que l'accusation était valable et le dossier du procureur solide, et je ne voyais pas pourquoi j'aurais appelé des témoins pour me défendre. Au cours des contre-interrogatoires et de mes tentatives pour obliger le juge à se récuser, j'avais fait les déclarations que je voulais sur la partialité du tribunal. Je ne voyais aucun avantage à appeler des témoins pour essayer de contrer quelque chose qui était indiscutable. Le juge fut pris au dépourvu et me demanda un peu incrédule « Vous n'avez rien d'autre à dire ?»« Monsieur le Président, avec votre respect, si j'avais quelque chose d'autre à dire, je le dirais. » Le procès fut ajourné jusqu'au lendemain, et j'aurai alors l'occasion de m'adresser au tribunal pour ce qu'on appelle la demande en réduction de dommages-intérêts avant que le juge rende sa sentence. Le lendemain matin, les autorités étaient en alerte. La foule dans la salle semblait encore plus importante que le premier jour du procès. Les 150 sièges réservés aux non-européens étaient occupés. Winnie se trouvait là, dans une robe Kossa, ainsi que des membres de ma famille du Transkei. Des centaines de manifestants se tenaient à une rue du tribunal, et il semblait y avoir autant de policiers que de spectateurs. En entrant dans le prétoire, j'ai levé le poing droit et j'ai crié « Amandla », à quoi a répondu un puissant « Ngawetu ». Le juge a frappé la table avec son marteau et a réclamé le silence. Quand le calme est revenu, il a rappelé les charges et j'ai eu la possibilité de parler. Ma demande en réduction a duré plus d'une heure. Ce n'était pas un appel juridique, mais un testament politique. Je voulais expliquer à la cour comment et pourquoi j'étais devenu celui que j'étais aujourd'hui. Pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait et pourquoi, si j'en avais encore l'occasion, je le referais. J'ai dit à la cour que j'avais rejoint l'ANC et que sa politique de démocratie et d'antiracisme reflétait mes convictions les plus profondes. J'ai rappelé en détail les nombreuses fois où le gouvernement avait utilisé la loi pour faire obstacle à ma vie, à ma carrière et à mon travail politique avec des interdictions, des limitations et des procès. La loi a fait de moi un criminel, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que je défendais, de ce que je pensais, à cause de ma conscience. Peut-on s'étonner que de telles conditions fassent d'un homme un hors-la-loi ? Peut-on s'étonner qu'un tel homme, ayant été mis hors la loi par le gouvernement, soit prêt à mener une vie de hors la loi comme celle que j'ai menée pendant quelques mois d'après les preuves apportées devant cette cour? Pendant la dernière période, il ne m'a pas été facile de me séparer de ma femme et de mes enfants. Mener cette vie a été infiniment plus difficile que de purger une peine de prison. Aucun homme sensé ne choisirait volontairement de mener ce genre de vie plutôt qu'une vie familiale, sociale, normale, qui existe dans toute communauté. Mais il vient un moment où, comme dans ma vie, On nie à un homme le droit de mener une existence normale, où il ne peut mener qu'une existence dehors la loi, parce que le gouvernement a décidé d'utiliser la loi pour lui imposer cet état. J'ai été conduit à cette situation et je ne regrette pas d'avoir pris les décisions que j'ai prises. D'autres gens seront conduits dans ce pays par ces mêmes forces de répression policière et par l'action administrative du gouvernement à suivre le chemin que j'ai pris. De cela, je suis sûr. Avant d'entendre le verdict, j'ai informé la Cour que, quelle que soit la sentence, cela ne changerait rien à mon engagement envers la lutte. Monsieur le Président, je ne crois pas que cette Cour, en m'infligeant des sanctions pour les crimes dont je suis accusé, doive penser que ces sanctions vont détourner des hommes de la voie qu'ils croient juste. L'histoire montre que les sanctions pénales ne détournent pas les hommes quand leur conscience est éveillée, comme elles ne détourneront pas mon peuple ou les compagnons avec qui j'ai travaillé de la voie qu'ils ont choisie. Quelle que soit la sentence que vous jugerez bon de m'infliger pour le crime dont j'ai été reconnu coupable devant cette cour, je serai toujours animé, comme les hommes le sont toujours, par ma conscience. Je serai toujours animé par ma haine de la discrimination raciale à l'égard de mon peuple. Quand j'aurai fini de purger ma peine pour reprendre du mieux que je le pourrai la lutte pour la suppression de ces injustices jusqu'à ce qu'elles soient finalement abolies une fois pour toutes. J'ai fait mon devoir envers mon peuple et envers l'Afrique du Sud. Je ne doute pas que la postérité dira que j'étais innocent et que les criminels qu'on aurait dû amener devant ce tribunal sont les membres du gouvernement. Quand j'eus fini, je ne me faisais aucune illusion sur ma condamnation. Dans le tribunal tendu par l'émotion, le juge prononça la sentence. 3 ans de prison pour avoir incité les gens à faire grève et 2 ans pour avoir quitté le pays sans passeport. 5 ans en tout, sans possibilité d'appel. C'était une sanction sévère et il y eut des pleurs dans la salle. Quand la cour s'est levée, je me suis tourné vers la foule et j'ai de nouveau levé le poing en criant « Amandla !» 3 fois. Tandis que les policiers m'entraînaient dans le fourgon cellulaire, j'entendais les gens à l'extérieur qui chantaient « Nkosi sikelel i Africa ». Dieu bénisse l'Afrique, notre magnifique hymne national africain. Maintenant, je n'étais plus un détenu provisoire en attente de procès, mais un condamné, et l'on m'a traité sans même cette petite déférence qu'on m'accordait avant. On m'a donné le costume réservé aux Africains, un short, une chemise kaki, une veste de toile, des chaussettes, des sandales et une casquette de tissu. Seuls les Africains avaient un short car les autorités les considéraient comme des boys. J'ai informé les autorités qu'en aucun cas je ne porterais de short et je leur ai dit que j'étais prêt à aller au tribunal pour protester. Plus tard, quand on m'a apporté le repas du soir, une bouillie froide et dure avec une cuillerée de sucre, j'ai refusé de manger. Le colonel Jacobs a réfléchi et m'a proposé une solution. Je porterai un pantalon long et j'aurai des repas spéciaux si j'acceptais d'être mis en isolement. Nous voulions vous mettre avec les autres politiques, m'a-t-il dit, mais maintenant vous serez seul. J'espère que ça vous plaira. Je lui ai assuré que la solitude me convenait dans la mesure où je pouvais porter et manger ce que j'avais choisi. Pendant les semaines suivantes, je suis resté complètement et totalement seul. Je n'ai pas vu le visage ni entendu la voix d'un autre prisonnier. J'étais enfermé 23 heures par jour, avec 30 minutes d'exercice le matin et le soir. Je n'avais jamais vécu dans l'isolement et chaque heure me semblait une année. Il n'y avait pas de lumière naturelle dans ma cellule. Une ampoule nue restait allumée 24 heures sur 24. Je n'avais pas de montre et souvent je me croyais au milieu de la nuit alors que ce n'était que la fin de l'après-midi. Je n'avais rien à lire, rien pour écrire et personne à qui parler. L'esprit commence à se retourner sur lui-même et on désire désespérément quelque chose de l'extérieur pour y fixer son attention. J'avais connu des hommes qui avaient préféré recevoir une demi-douzaine de coups de fouet plutôt que d'être enfermés seuls. Au bout d'un certain temps de solitude, je me réjouissais même de la présence d'insectes dans la cellule et j'étais sur le point d'entreprendre des conversations avec les cafards. J'ai commencé à protester violemment contre mes conditions d'incarcération et j'ai exigé d'être mis avec les autres prisonniers politiques. Parmi eux se trouvait Robert Sobukwe. Le colonel Jacobs finit par accepter, mais il me mit sévèrement en garde en me disant que les conséquences seraient très graves si je me conduisais de nouveau de façon imprudente. Je ne pense pas avoir autant désiré manger de la bouillie de maïs froide. Non seulement je souhaitais de la compagnie, mais je voulais aussi parler avec Sobukwe et les autres prisonniers, la plupart du PAC, parce que je pensais qu'en prison, nous pourrions forger une unité impossible à l'extérieur. Les conditions de vie en prison tempèrent les polémiques et les gens voient plus ce qui les unit que ce qui les sépare. Quand on m'a emmené dans la cour avec les autres, nous nous sommes salués chaleureusement. En plus de Sobukwe, il y avait Stephen Tefou, un syndicaliste, membre important du Parti communiste. Robert me demanda de leur faire un compte-rendu de mon voyage en Afrique et je m'exécutai avec joie. Je leur dis franchement comment l'ANC et le PAC étaient perçus dans les autres pays. À la fin de mon récit, je leur expliquai que je voulais que nous examinions certaines questions. Mais après nous avoir permis d'être ensemble, les autorités s'efforcèrent de nous séparer, Sobukwe et moi. Nous étions seuls dans des cellules tout au long d'un couloir et la sienne et la mienne se trouvaient aux deux extrémités. 15 jours plus tard, Walter est venu nous rejoindre. Le tribunal de Johannesburg l'avait jugé pour incitation à la grève pendant que je me trouvais à Pretoria. On l'avait condamné à 6 ans de prison. Nous avons eu un certain nombre d'occasions de parler en prison, en particulier de sa demande de mise en liberté sous caution dans l'attente du jugement en appel, quelque chose que je soutenais de tout cœur. Au bout de 15 jours, il a été libéré sous caution, et le mouvement lui a donné l'ordre de passer dans la clandestinité, d'où il continuerait à diriger la lutte, ce qu'il fit avec efficacité. En octobre 1962, pendant mon procès, l'ANC tint sa première conférence annuelle depuis 1959. Comme l'organisation était maintenant illégale, la conférence eut lieu à Lobatse, juste de l'autre côté de la frontière du Bechuanaland. Cette conférence marqua un tournant parce qu'on y associa explicitement l'ANC et MK. Le comité national de direction déclara « Pour nous, l'essentiel reste l'action politique de masse. » Cependant, il parlait d'Umkhonto comme de la branche militaire de notre lutte. Les actes de terrorisme contre les autorités bantoues augmentèrent ainsi que la vigilance du gouvernement. John Forster, le nouveau ministre de la Justice, était un homme dépourvu de tout sentiment. Pour lui, une main de fer représentait la meilleure réponse à la subversion. Le 1er mai 1963, le gouvernement prit un décret destiné à briser les reins d'Umkhonto, comme le dit Forster. La General Law Amendment Act, plus connue sous le nom de 90-Day Detention Law, la loi de détention de 90 jours, abandonnait le droit de l'habeas corpus et donnait le pouvoir à tout officier de police de détenir sans aucun mandat toute personne soupçonnée de crime politique. Ceux qui étaient arrêtés pouvaient être détenus sans procès, sans chef d'inculpation, sans possibilité de contacter un avocat et sans aucune protection contre une inculpation à cause des propos tenus pendant l'arrestation, et cela pendant 90 jours. Mais cette détention de 90 jours pouvait être prolongée, comme l'expliqua Forster de façon inquiétante, pendant toute la durée de ce côté de l'éternité. La loi transformait le pays en état policier. Aucun dictateur ne pouvait aspirer à plus de pouvoir que celui que cette loi donnait aux autorités. En conséquence, La police devint encore plus féroce. Les prisonniers furent systématiquement battus et nous avons bientôt entendu parler de torture à l'électricité, d'étouffement, etc. Forster défendit aussi la Sabotage Act, loi sur le sabotage, de juin 1962, qui permettait les assignations à résidence et des interdictions plus rigoureuses sans possibilité d'aller devant un tribunal, et qui limitait les libertés des citoyens comme dans les dictatures les plus fascistes. Les peines sanctionnant les actes de sabotage allaient d'un minimum de 5 ans de prison, sans possibilité d'appel, jusqu'à la peine de mort.